Bon, évidemment, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ce colloque, tout particulièrement le professeur Marie-Hélène Bernard, de son accueil chaleureux, tout d'abord, évidemment, mais aussi de l'occasion qu'il me donne, non pas seulement de découvrir Reims, que je ne connaissais pas, mais aussi de venir à votre rencontre, de venir à la rencontre de la communauté des experts, qui sont, si vous me le permettez, un petit peu l'objet de ma recherche, de mes travaux de recherche. Je suis chercheur au CNRS et je m'intéresse au rôle du juge et au lien que celui-ci entretient avec la réalité extra-juridique, en particulier dans le domaine sanitaire et environnemental. Notamment, j'ai mené cette étude-là dans le cadre d'un projet de recherche financé par la mission Droit et Justice. Mon propos aujourd'hui, donc je suis universitaire, hein, mon propos sera peut-être un petit peu trop théorique et j'espère pouvoir le corriger grâce à vous. Mon propos donc aujourd'hui est de mettre le système d'expertise en vigueur dans le droit de l'Union européenne en perspective avec les règles et les pratiques en vigueur dans les ordres juridiques avec lesquels il est en interaction, c'est-à-dire les ordres juridiques nationaux, le droit européen, européen au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, et également avec l'expertise en droit international. Du coup, vous allez vite vous en rendre compte, pas mal voyager durant cette intervention, voyager d'un ordre juridique à l'autre, d'un juge à l'autre, afin de savoir finalement si l'on peut valablement parler d'un modèle européen de l'expertise. Vous verrez également que j'ai légèrement modifié mon plan de vol par rapport à ce qui a pu vous être fourni dans les documents que vous avez. J'espère que vous m'en excuserez. Donc, chemin faisant, nous verrons d'abord que l'étude du droit positif fait ressortir une grande diversité des conditions et des pratiques du recours à l'expert dans les différents systèmes de droit, dans les différentes juridictions étudiées. Mais nous constaterons également qu'est en marche, comme nous l'avons déjà un petit peu dévoilé avec l'intervention précédente, depuis quelques années, un progressif encadrement du recours à l'expert sous l'égide essentiellement du droit européen. Alors, diversité des règles et pratiques, les règles applicables au procès entretiennent un lien intime avec la société dans laquelle elles sont édictées et varient donc fortement d'un ordre juridique à l'autre, aussi bien dans leur forme que dans leur contenu. Il en va de même de la pratique de l'expertise. S'agissant de cette pratique, justement, je voudrais noter que parmi les éléments qui déterminent le recours plus ou moins important, plus ou moins fréquent à l'expert, outre le modèle juridictionnel en vigueur, comme on a pu le voir tout à l'heure, il semble que le coût de la procédure, le volume des affaires, sont loin d'être sans conséquences. Alors, si on parle des juridictions internationales, les juridictions surchargées évitent d'alourdir encore leurs tâches et d'allonger la procédure en ayant recours à l'expert. En revanche, les plus récentes, moins saisies, manifestent très souvent leur volonté de faire leurs preuves. Et pour cela, ils ont recours davantage à l'expert. C'est ainsi que malgré un règlement qui lui permet soit à la demande des parties, soit d'office d'adopter une mesure d'instruction et de saisir un expert, la Cour européenne des droits de l'homme ordonne relativement rarement des expertises. Pour ne pas dire jamais d'expertise, en réalité, elle ordonne des expertises uniquement lorsqu'elle cherche à établir le montant d'une indemnisation. Pour le reste, il n'y a pas d'expertise ordonnée par cette Cour. Le volume des affaires à traiter, le caractère écrit de la procédure, couplé également à la quantité importante des données scientifiques qui sont produites par les parties, explique cette réticence. En cas d'incertitude, la Cour se réfère au dossier et aux éléments qui sont amenés par les parties. Alors, s'agissant de la Cour internationale de justice, son statut lui accorde de larges pouvoirs afin de mener son instruction. Mais elle n'utilise pas ses pouvoirs ou rarement pour ordonner une expertise. En vertu de règles elliptiques, elle peut confier une enquête ou une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix. Elle le fait lorsqu'elle a à trancher des affaires de délimitation, des conflits concernant des frontières. En revanche, la Cour internationale de justice répugne bien souvent à convoquer de façon officielle des savoirs extérieurs. Alors, un arrêt récent rendu dans l'affaire des pâtes à papier, c'est un arrêt de 2010, illustre cette réticence. Donc, c'était une affaire qui portait sur la construction d'usines de pâtes à papier sur le fleuve Uruguay, construction autorisée par l'Uruguay et qui, évidemment, posait des risques en matière de protection de l'environnement. Donc, c'est une affaire à forte teneur scientifique. La Cour a entendu les experts des parties, mais n'a pas elle-même ordonné la consultation d'experts. On remarque ici la forte influence du système de common law en droit international. Alors, est-ce que ça veut dire que la Cour internationale de justice laisse aux parties le soin de l'éclairer et qu'elle n'en fait pas davantage? Certainement pas. Cette Cour a recours notoirement à des experts de façon non officielle. Ceux-ci sont consultés de manière purement interne. Leurs conclusions ne sont jamais rendues publiques. Deux juges, dans l'affaire des pâtes à papier dont je vous parlais, ont d'ailleurs rendu une opinion dissidente particulièrement critique, particulièrement intéressante aussi, dans laquelle ils estiment que dans cette affaire, la Cour a manqué son rendez-vous avec la science. Alors, que dire à présent de l'organe de règlement des différends de l'OMC ? Le mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends à l'OMC prévoit explicitement la possibilité d'avoir recours à l'expert. Les contentieux portés devant l'OMC sont très souvent éminemment techniques. On se souvient, hein, pour ce qui concerne l'Union européenne, de l'affaire des hormones, par exemple, ou l'affaire des produits biotechnologiques. Par ailleurs, il y a des enjeux économiques particulièrement forts. Or, les groupes spéciaux, qui sont composés en général de deux diplomates et d'un juriste, évidemment n'ont pas les qualifications scientifiques nécessaires. Ce qui fait que ces groupes spéciaux sont des juridictions, je dis juridictions avec des guillemets, hein, comprenez ça pour la suite de mon intervention, plutôt ouvertes à l'expertise. Résultat, dans toutes les affaires sanitaires, environnementales traitées par cette juridiction, il y a eu un recours à l'expert, y compris lorsque les parties ne le demandaient pas, y compris lorsque les parties étaient opposées. Et les rapports des experts dans les affaires citées ont un impact fondamental sur la décision prise par le juge de l'OMC. Juge entre guillemets, je ne le répéterai plus. Nous y reviendrons sur cet impact fondamental de l'expertise en matière d'OMC. Alors qu'en est-il du juge communautaire, du juge de l'Union européenne ? Parmi les mesures d'instruction prévues par l'article 45.2 du règlement de procédure de la Cour et du tribunal de première instance, figure l'expertise. Ces dispositions sont assez proches du droit français, par ailleurs. Le nombre d'articles consacrés à l'expertise dans ce règlement est assez significatif. Il donne à penser qu'il s'agit d'un élément courant de la procédure. Pourtant, il s'avère que le juge de l'Union ordonne très rarement d'expertise. On peut recenser une petite trentaine d'affaires, alors qu'il est quand même un juge très saisi, une petite trentaine d'affaires dans lesquelles la Cour ou le tribunal a eu recours à l'expertise. En général, c'est en matière économique, informatique ou linguistique. Alors pourquoi ce faible recours à l'expertise par le juge de l'Union ? Première explication, le juge de l'Union est un juge qui s'estime expert. C'est-à-dire c'est un juge qui a une grande confiance dans sa propre expertise. Les juges n'hésitent pas à se documenter pour trancher une question d'ordre scientifique. Alors j'ai plusieurs exemples. Le conflit qui opposait les pêcheurs de l'étang de Berre à l'État français sur le fonctionnement de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamin, la Cour s'est livrée une analyse approfondie des circonstances de la pollution et des actions réalisées par la France pour en minimiser les effets. Elle a pris appui sur des rapports scientifiques élaborés par des chercheurs. Elle n'a pas nommé d'experts. Alors, dans d'autres affaires, peut-être encore plus significatives, je pense par exemple à un arrêt Monsanto, en 2003, donc portant sur la commercialisation d'OGM, la Cour s'est prononcée sur la question de savoir si un aliment contenant des résidus d'OGM pouvait être considéré comme un aliment substantiellement équivalent à un autre. Elle a développé une analyse fortement empreinte de données scientifiques sans recourir à l'expert pour dire que finalement ce n'était pas substantiellement équivalent. Dans une autre affaire liée au règlement REACH, aux substances chimiques, la Cour, de la même manière, va développer sa propre définition de ce que peut être une substance monomère, sans recourir à l'expert. Alors, autre explication de ce faible recours à l'expert, c'est la volonté du juge communautaire de ne pas empiéter sur les attributions des autres institutions par l'intermédiaire d'un contrôle minimum. C'est ce qui explique en grande partie probablement ce refus d'expertise. Il est en effet de jurisprudence constante que dès lors que les institutions de la communauté ou les États membres sont confrontés à un dossier scientifiquement et politiquement très complexe, le juge limite son contrôle à un contrôle de l'absence d'erreurs manifestes d'appréciation. C'est ce que la Cour a fait dans les affaires Pfizer en matière d'interdiction de certains antibiotiques dans l'alimentation animale. Alors, est-ce que ça veut dire que le juge de l'Union ne s'intéresse pas à l'expertise ? Ben, pas du tout. Il se prononce très souvent sur l'expertise, sur les expertises amenées par les parties. C'est le cas à chaque fois qu'un État, par exemple, va vouloir restreindre les règles de la libre circulation pour assurer, par exemple, la sécurité sanitaire. Alors, c'est les affaires en France relatives aux OGM ou, par exemple, à la boisson, l'interdiction française de la boisson du Red Bull, etc. Donc là, il y a toujours des expertises qui sont apportées et la Cour se prononce sur la validité, le sérieux de ces expertises. Alors, évidemment, en tant que communautariste, je suis obligée de citer le dernier arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne relatif à l'expertise judiciaire, ou plutôt aux experts judiciaires, l'arrêt du 17 mars 2011, dont on a parlé tout à l'heure. Bon, voilà, c'était un ressortissant espagnol qui exerce la fonction d'expert traducteur depuis 20 ans dans son pays, qui demande son inscription sur les listes françaises, liste cour d'appel plus liste nationale. Ses demandes sont rejetées, il se pourvoit en cassation. La Cour de cassation pose une question préjudicielle à la Cour de justice. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette réponse de la Cour de justice ? Un, que, mais vous savez peut-être ça déjà dans le détail, je voulais juste souligner ce qui, pour les communautaristes, va ressortir de cette analyse-là, qu'il ne s'agit pas d'une profession réglementée. Pourquoi ? Parce que, un, ce n'est pas une profession. Et deux, on peut quand même choisir des experts non inscrits. Deux, que ce n'est pas une mission, la mission d'expert, qui participe à l'exercice de l'autorité publique. C'est ça qui était important pour la Cour. Si une mission participe à l'exercice de l'autorité publique, un État peut se réserver le droit de la réserver à des nationaux. Trois, que c'est une prestation de service, ça nous l'avons vu. Et quatrièmement, que finalement, les règles françaises, pour faire court, sont des entraves à la libre prestation de services. Donc les questions que l'on pourrait débattre peut-être tout à l'heure, c'est qu'en est-il de la portée de cette affaire ? Est-ce que la Cour précise bien, c'est ce que je voulais en fait mentionner ici, précise bien que cette affaire ne concerne qu'un expert traducteur et pas tous les experts. On peut se poser la question de savoir si finalement dans les autres disciplines pour lesquelles le rapport de l'expert influence davantage le juge, la solution aurait peut-être été différente. Et ensuite, la Cour de justice insiste aussi très fortement sur le point de savoir qu'il s'agit ici simplement d'une prestation de service et qu'elle ne se prononce pas sur la question de l'établissement d'un expert étranger en France. Donc voilà, l'impact de la jurisprudence du juge de l'Union sur la procédure d'expertise, si lui-même est peu enclin à s'en servir, est loin, très loin, d'être marginal. Donc c'est dans un contexte de globalisation du droit et face au double constat du recours de plus en plus courant à l'expertise et de la grande diversité des règles applicables, qu'une certaine harmonisation est devenue indispensable. Cette harmonisation progressive est en marche. Le président Maté nous l'a parfaitement décrit tout à l'heure. Ce que j'entends dire ici, c'est simplement que si cette harmonisation progressive est en marche, c'est sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme, du principe du contradictoire et de celui de l'indépendance des experts. Donc je ne reviens pas sur les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui finalement ont forcé les juridictions nationales mais aussi internationales, c'est mon point ici, à faire entrer les procédures d'expertise sous la bannière du procès équitable. Ça a été le cas pour la France, de façon assez flagrante, mais ça a été aussi le cas pour les juridictions internationales qui, elles aussi, ont dû suivre finalement la marche en avant de l'encadrement de la procédure d'expertise. Je citerai deux exemples pour vous montrer finalement que le juge de l'Union européenne lui-même a parfaitement intégré ce besoin d'encadrement du rapport d'expertise. Il prévoit par exemple que les parties doivent être invitées à déposer des observations au sujet du rapport d'expertise. Il prévoit également, il a aussi consacré dans plusieurs affaires un droit à la contre-expertise, finalement en soumettant ici, ce qui est assez notable, les règles nationales en matière d'administration de la preuve aux exigences découlant des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc il y a une double pression, finalement, sur le système français de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne. S'agissant de l'indépendance et de la compétence de l'expert, c'est sur cela que je voudrais terminer, on s'aperçoit que les juridictions internationales ont une application très variable de ces règles-là. Pour prendre un exemple, je prendrai l'exemple du Tribunal international du droit de la mer, qui a très souvent à trancher des affaires éminemment techniques. Le Tribunal international du droit de la mer est dominé par le système de common law. La qualité, l'indépendance de l'expertise est surtout passée au tamis de la cross-examination. Pas du tout d'autres. Il n'y a pas de règles spécifiques dans le règlement du Tribunal international du droit de la mer concernant l'indépendance de l'expert, ni concernant sa qualité. Finalement, c'est quand il n'y a pas de cross-examination d'un expert que sa qualité, la qualité de son expertise, est mise à mal et que finalement, c'est l'autre partie qui va emporter l'affaire. Ça s'est produit à de nombreuses reprises, notamment dans un conflit opposant Singapour à la Malaisie sur des travaux de polarisation. Alors, une juridiction s'est davantage penchée sur cette question de l'indépendance. C'est, juridiction entre guillemets, le juge de l'OMC. Dans les textes relatifs à l'expert dans le système de règlement des différends de l'OMC, il n'y a rien sur l'indépendance. Il n'y a même pas grand-chose sur le choix des experts. Comment on choisit des experts dans le cadre d'un contentieux interétatique à l'OMC ? Chaque État fournit une liste d'experts dans des domaines variés. Et puis après, c'est un système un peu de tir au pigeon, si je peux dire ainsi. Alors, chaque État va dire non, un tel, c'est pas possible, etc. On arrive finalement avec. Je prends par exemple l'exemple du contentieux sur les produits biotechnologiques, qui a été une des affaires marquantes. Il y avait une liste de 117 experts au départ. Après notre fameux. Notre procédure de tir au pigeon, là, on s'est retrouvé avec 5 experts simplement. Les 5 dont on pouvait dire oui, ils sont compétents et ils sont pas. Enfin, on n'arrive pas à leur trouver de lien avec d'autres organisations. Finalement, c'est la jurisprudence qui va intervenir pour essayer de clarifier un peu les choses ici. Et là, c'est dans une autre affaire, l'affaire des hormones, que l'organe d'appel va donner sa façon de concevoir l'indépendance. L'affaire des hormones, c'est l'affaire qui concerne, qui opposait les États-Unis à l'Union européenne sur l'interdiction par l'Europe de l'importation des viandes bovines traitées aux hormones. Donc l'Europe invoquait la sécurité sanitaire, le risque de cancer, et les États-Unis estimaient qu'il n'y avait aucun risque et que donc c'était simplement du protectionnisme de la part de l'Union européenne. Dans cette affaire-là, la communauté européenne a d'abord tenté de récuser des experts pour incompétence. Voilà, publiquement, elle a dit ils n'ont pas de publication topique sur le sujet, ils ne sont pas reconnus. Ça n'a pas marché, tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé d'autres experts. On n'arrivait pas à en trouver d'autres, donc il fallait bien garder ceux qu'on avait désignés au départ. Et ensuite, la Cour européenne a mis en cause deux des experts sur le motif de la non-indépendance. C'est-à-dire que ces experts avait fait partie d'un comité de normalisation. Ils étaient vice-président et président du comité de normalisation qui avait adopté les normes relatives aux hormones en cause. Donc on pouvait estimer qu'ils étaient quand même plutôt favorables aux normes. Alors quand dit l'organe d'appel, il dit effectivement il y a un problème avec la nomination de ces experts. Je reconnais que c'est très difficile de trouver des experts qui concilient à la fois compétence et indépendance. Je ne voudrais pas alourdir la procédure, mais quand même, le rapport rendu par ces deux experts dans l'affaire a un poids très très lourd. Alors effectivement, si on lit le rapport du groupe spécial dans cette affaire, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un copier-coller intégral du rapport des experts dans la décision. Et là, l'organe d'appel dit que ce n'est absolument pas possible de procéder ainsi. Il va donc sanctionner le raisonnement du groupe spécial. C'est une sanction particulièrement sévère, puisqu'il va estimer qu'il ne va pas pouvoir se prononcer. Il aurait pu trancher le litige lui-même. Il dit « je ne peux pas me prononcer parce que le dossier est vraiment trop mal foutu. Il faut recommencer la procédure ». Le travail fait en première instance, si vous voulez, est complètement biaisé. Le groupe spécial n'a pas fait son travail de gestion des éléments scientifiques. Il faudrait tout recommencer. Bon, il se trouve qu'on a réglé ça politiquement entre-temps, donc la procédure est close. Donc voilà, en liant expertise contradictoire et régularité de la procédure, les juridictions internationales prennent en compte le fait que l'expertise ne constitue pas seulement un appoint pour le juge, mais qu'elle participe directement à la construction du jugement. On s'aperçoit finalement que face à la grande diversité des textes, l'harmonisation des règles qui encadrent le recours à l'expert est en marche, que le juge, finalement, les juridictions étudiées ont trouvé un contrepoids à la force des éléments scientifiques en les procéduralisant, en leur imposant les règles fondamentales de la procédure qu'ils maîtrisent. La question que l'on peut se poser à ce stade, c'est est-ce qu'il faut aller plus loin ? Est-ce qu'il faut construire des critères communs de recevabilité des expertises scientifiques, un peu comme la Cour suprême a pu le faire aux États-Unis ? Moi, il me semble que fixer de tels critères est un exercice difficile. Que porter un regard juridique sur la validité scientifique d'une expertise peut très facilement s'avérer réducteur. Comment est-ce qu'on peut, par le biais de critères purement formels, laisser une place à une analyse véritablement scientifique, c'est-à-dire une analyse fondamentalement nuancée, gouvernée par le doute. Le contexte de la décision juridictionnelle internationale ajoute encore plus, alors pour le coup, à la difficulté de l'exercice et explique peut-être pourquoi les juridictions s'y dérobent le plus souvent. Alors elles s'y dérobent, même si certaines tentent un petit peu d'apporter leur grain de sel. Je pense par exemple à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de juin 2003, Van Keuk contre Allemagne. C'était une affaire d'un refus par l'Allemagne d'un changement de sexe. La Cour a dénoncé la procédure judiciaire en montrant qu'en raison des spécificités de cette affaire, les juridictions allemandes auraient dû finalement pousser plus loin l'analyse, demander à l'expert cité des explications supplémentaires et peut-être aussi demander ces explications supplémentaires à d'autres experts. Donc on voit quand même qu'il y a une volonté d'essayer de pousser davantage le traitement des données scientifiques. En guise de conclusion, et pour aller un petit peu plus loin peut-être, j'aimerais évoquer une procédure qui est en vigueur dans certains... Alors je ne sais pas si on appelle ça des provinces... je vais dire des provinces, c'est probablement faux, hein, australiennes. Procédure qui a commencé à faire des émules dans d'autres États, en Grande-Bretagne, à Hong Kong, et j'ai discuté avec un collègue japonais il y a assez peu de temps. C'est aussi une procédure qui est expérimentée par certains tribunaux japonais. Donc c'est la procédure que l'on nomme la procédure de concurrent evidence et qui est applicable sans réforme législative. C'est à l'initiative d'un juge, le juge McLaglan, que cette procédure a été mise en place. Elle s'applique dans les contentieux les plus sensibles ou les plus complexes, pour lesquels plusieurs experts vont être nommés. Ils vont travailler dans un premier temps à titre individuel, rendre un rapport individuel. Ensuite, il va y avoir une synthèse des rapports individuels, synthèse qui doit faire ressortir les points d'accord et les points de désaccord. Et cette synthèse va être considérée dans un rapport de synthèse, donc un peu à la manière de ce qui se fait à présent à la Cour d'appel de Paris. Et ce rapport de synthèse va être discuté en séance avec dans une réunion présidée par le juge. Et il doit se dégager au cours de cette réunion un consensus sur les points d'accord, sur les points de désaccord scientifiques. Et le juge tranchera sur le fondement de ce consensus. Il s'agit pour les juridictions de common law, d'un système de common law, de se rapprocher un petit peu des règles de la civil law, en les améliorant, de façon significative quand même, car il me semble qu'une telle procédure a le mérite d'accroître la fiabilité de la procédure d'expertise sans aller jusqu'à laisser le juge seul arbitre de la qualité des données scientifiques reçues. Mais je soumets tout cela à votre réflexion et je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Madame Trullet-Maringot. Moi, j'ai envie de réagir sur le... Quand vous dites que le juge se passe de l'expert, c'est une vision intéressante, comme expert. C'est une vision intéressante et ça pose le problème de l'interprétation des données scientifiques. Parce que nous, on a le même problème. Quand on a des données scientifiques qui sont exposées dans telle ou telle revue, quelle est la fiabilité de la revue? Quelle est la fiabilité de l'équipe? Quelle est la fiabilité? Eh bien ça, finalement, quand on est expert, on va se servir de notre expérience, de l'expérience des collègues dont on est sûr de la fiabilité. Alors ça, c'est pas très clean d'un point de vue procédure. Mais c'est vrai que c'est particulièrement difficile. Alors je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez là-dessus.
Il y a une formation à Strasbourg qui apporte un niveau scientifique très élevé aux juristes et un niveau juridique très élevé aux scientifiques. Vous connaissez cette formation, je crois que l'école, j'ai oublié le nom de l'école, mais il y a de nombreux élèves dans cette école qui ont à la fois la double formation scientifique. Or, par ailleurs, la communauté européenne possède un pool considérable d'experts dans ces deux grands organismes d'inscription des brevets en Hollande et en Allemagne, à Munich et à La Haye. Donc la juridiction européenne possède un savoir très très important qui peut égaler n'importe quel expert dans ce domaine, puisqu'ils ont ces experts. Et que vous disiez qu'ils pouvaient faire appel à n'importe quel organisme européen qui pouvait fournir l'information. Voilà. Et je crois savoir, car un de mes amis qui a un doctorat en chimie, qui travaille pour un des bureaux de dépôt des brevets européens, a tenté la formation pour se munir de la connaissance juridique. Il a échoué, alors que c'est quelqu'un qui a un niveau très élevé. Donc on peut penser que les juges de la Cour européenne sont des gens qui ont... sont des juges, donc on peut déjà leur faire confiance a priori, s'il vous plaît. On ne peut pas toujours dire que le juge est quelqu'un qui ne sait pas. Et ensuite, donc il y a quand même au niveau européen une très très forte source d'informations scientifiques. Merci. Alors je voulais poser une question, moi, qui m'intéresse. Concernant l'interprète espagnol, il était installé en France?
Non.
Alors, pour être inscrit expert judiciaire sur la liste des experts judiciaires, il faut se rendre, faire sa demande à l'endroit où on habite, au tribunal de grande instance. Donc, voilà, donc un expert qui... Moi, j'habite Strasbourg, donc j'ai fait ma demande pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires auprès de la Cour d'appel de Colmar, au tribunal de grande instance de Strasbourg. Je ne pourrais pas demander à être inscrit sur la liste des experts en Allemagne, puisque je n'habite pas en Allemagne. Voilà, donc peut-être notre confrère espagnol aurait pu être embauché par un juge français pour faire une expertise, parce que c'est un grand linguiste franco-espagnol. Mais ce qu'il proposait, c'est d'être inscrit sur une liste auquel le règlement ne lui autorise pas. Alors, je voulais poser une question sur le Paraguay, mais peut-être que quelqu'un le pose. Le Paraguay ne fait pas partie de la communauté européenne. Donc l'entreprise était européenne et les gens qui ont conduit la procédure devant la juridiction européenne étaient européens aussi. Ce ne sont pas les gens du Paraguay qui sont adressés à la Cour européenne.
Est-ce que vous faites référence à l'affaire dont j'ai parlé?
Oui.
Non. Alors c'était l'Uruguay et c'est devant la Cour internationale de justice.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Je veux répondre à vos questions un petit peu croisées. Hein. J'étais pas du tout en train de dire que c'est indûment que la Cour de justice mène sa propre évaluation scientifique. Je dis simplement que c'est un état de fait par rapport à d'autres juridictions. Elle ne se gêne pas pour exclure le recours à l'expert et traiter elle-même ses données. Et effectivement, c'est une Cour qui a l'habitude de trancher des questions éminemment complexes, que ces questions se répètent très souvent et donc elle a acquis une certaine expérience, des connaissances assez poussées dans certains domaines. Par ailleurs, effectivement, le système institutionnel européen fait qu'elle est entourée d'organes qui ont la connaissance. Simplement, effectivement, c'est notable de voir qu'elle y a très peu recours, y compris dans des affaires qui pourtant ont des implications techniques parfois très très complexes. Sur la deuxième question, oui, évidemment, en fait, l'expert espagnol aurait très bien pu être quand même intégré dans une procédure. Simplement, je pense qu'il voulait peut-être tester le mécanisme européen et voir si c'était possible d'accomplir cette prestation de service. C'est peut-être, semble, cheval de Troie, je ne sais pas. Voilà.
Jean-Pierre Gottman, Envirosol, je suis expert comme vous autres, mais en cité sol pollué. Je souhaite un peu rebondir. Voilà, ça ira mieux. Voilà. Donc, juste simplement pour réagir sur la spécificité des juges, je dirais que je suis expert en cité sol pollué. Je vois mal un juge, vis-à-vis des risques sanitaires environnementaux, être capable de statuer, étant donné que dans la profession au niveau national, les gens ne sont pas d'accord. Je fais partie des groupes de travail au niveau du ministère. Les juristes, les avocats sont complètement perdus, alors un juge.
Mais le juge est au-dessus de tout. Monsieur Pellebois, vous voulez ?
Oui, Vincent Pellebois, professeur de traduction juridique, entre autres à Paris 3. Et donc sur l'affaire Peñarroja-Fa, je suis d'accord avec vous sur le fait que moi, étant traducteur juridique en exercice, je le suis sur la cour d'appel de Reims, c'est le lieu de mon domicile. Donc effectivement, il y a une espèce de territorialité de l'expert dans les règlements français. On est comme ça, on est là et je ne suis pas traducteur en Espagne, bien que voilà, je pourrais l'être, mais je ne le suis pas et je ne peux pas l'être facilement. Donc j'ai été tout à fait étonné de cette décision ici du 17 mars à cause de ça. Et deuxièmement, le fait que ce soit seulement considéré, je pose la question, la traduction, surtout quand elle est traduction technique, j'ai à côté de moi une traductrice qui a aussi une très grande qualification en chimie, si on lui demande quelque chose en chimie, même si j'étais dans sa branche de langue, je ne m'y mettrais pas parce que je n'aurais pas la qualification. C'est-à-dire que c'est à la fois un expert, il y a une double expertise dans un traducteur technique, et c'est vrai que dans certains domaines, j'enseigne la traduction technique à Paris 3, mais il y a des domaines où je ne me mets pas parce que ça n'est pas les miens, ça ne seront pas les miens. Donc il y a une double casquette, c'est-à-dire il y a la casquette linguistique au fond, et puis il y a la casquette de spécialité du traducteur. Alors je pose la question si on ne peut considérer ça que comme une prestation de service.
Je comprends très bien votre question. Merci. C'est-à-dire, évidemment, vous, pour l'instant, le système ne permet pas à quelqu'un d'étranger de demander à s'inscrire ailleurs que dans l'ensemble de son domicile. Mais c'est précisément ça que voulait faire réformer la personne. Donc, au nom des règles du droit communautaire qui, pour les autres professions, dans les autres domaines, a plutôt tendance à élargir le principe de libre prestation de services et liberté d'établissement.
Non, je crois qu'il faut corriger un certain nombre d'imprécisions. D'une part, depuis 2007, les traducteurs-interprètes n'ont plus la condition de domicile qui concerne tous les autres, la condition de résidence qui concerne tous les autres experts. Et il est à parier que si un expert procédait par les mêmes voies que l'a fait M. Pénard-Aura, la condition de domicile céderait pour tous les experts. C'est-à-dire que la condition de domicile actuelle que vous connaissez, sauf bien sûr pour les traducteurs, elle ne vise qu'une seule chose, c'est l'inscription sur la liste. Elle ne donne pas une compétence uniquement territoriale à l'expert. L'expert peut aller procéder à ses investigations sur tout le territoire national. Pour l'international, c'est un autre sujet. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point maintenant, sur la nationalité de l'expert, on a des experts qui sont de toute nationalité sur nos listes. Il n'y a pas de quota, il n'y a pas de règle qui imposerait d'avoir un expert de nationalité française. Et puis, troisième observation, effectivement, je pense que vous avez employé une expression, je vous la laisse, cheval de Troie, il y a certainement ça derrière l'intervention de ce justiciable. Ce qui a mis en évidence la décision de la Cour de justice, c'est plutôt l'absence de motivation des décisions et l'impossibilité pour l'intéressé de savoir pour quelles raisons il n'a pas été choisi. C'est ça qui est la critique majeure de cette action.
Oui, et je précise aussi que cet arrêt, c'est un arrêt qui a été rendu sans conclusion de l'avocat général. Ce qui veut dire, dans le système de droit communautaire, que c'est un arrêt qui ne pose aucun problème d'interprétation.
Très bien. Bon, oui.
Une petite question qui ne sera pas longue. Roland Bastard, expert judiciaire BTP. Sur le plan européen, aujourd'hui, on a quand même des passeports qui permettent de faire circuler les marchandises, les prestations de services et les certifications. Hein, certification d'entreprise, mais aussi certification de personne, puisque je constate actuellement que dans certains textes qui sortent, effectivement, pour pouvoir continuer à travailler et en rapport avec les réglementations européennes, donc il faudra des certifications. Est-ce qu'il n'y a pas une démarche qui pourrait consister, si vous voulez, à avoir des experts certifiés et qui pourraient intervenir finalement sur l'ensemble des pays de la communauté européenne? Il n'y a pas de
à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a rien. Je pense que le principe, c'est la reconnaissance mutuelle, quoi. Donc,